Bonsoir. L'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie ont annoncé leur volonté de quitter la Cour pénale internationale. Ces États reprochent à la CPI de ne poursuivre que les Africains depuis la création de cette juridiction, alors qu'il y a des crimes graves qui sont commis à travers le monde. Quel est le pire de la décision de ces trois pays? Nous en parlons avec Patrick Tchiboui, il est assistant chargé de la sensibilisation au bureau extérieur de la CPI à Kinshasa. Bonsoir, monsieur Patrick Tchiboui.
Bonsoir.
Professeur Jacques Joly, professeur de droit, il est sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC. Bonsoir, professeur Jacques Joly.
Bonsoir.
Professeur Boniface Moussambi Kabissa, criminologue. Bonsoir, professeur Kabissa.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'Afrique du Sud, le Burundi et la Gambie ont annoncé leur retrait du statut des Roms, texte fondateur de la Cour pénale internationale. De nombreux pays d'Afrique reprochent à cette juridiction censée être universelle de ne juger pour le moment que des Africains. Plus de précisions avec Berry Franklin Luchaka.
C'est le Burundi qui est le premier pays africain à annoncer son vœu de se retirer des statuts de Rome. Le Parlement burundais a voté à une écrasante majorité le 12 octobre dernier le projet de loi prévoyant le retrait du pays de la Cour pénale internationale, texte promulgué officiellement par le président quelques jours plus tard. Bujumbura décide de quitter la CPI dans un contexte de crise politique au pays portant sur le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Pendant ce temps, la CPI enquête sur les allégations de crimes contre l'humanité de la part du président de la République. Quelques jours plus tard, c'est l'Afrique du Sud qui annonce aussi son retrait des statuts de Rome. Pretoria affirme que l'adhésion au traité de Rome serait en contradiction avec ses engagements en termes d'immunité diplomatique, allusion faite à l'embarras dans lequel les autorités sud-africaines se sont retrouvées lorsqu'elles ont refusé d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Pays pour génocide. Et puis hier mardi, c'est la Gambie qui décide de se retirer des statuts de Rome. Le ministre gambien de l'information a accusé la CPI de, je cite, persécution envers les Africains, en particulier leurs dirigeants, alors que selon lui, au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de cette juridiction sans être inquiétés. Fin de citation. Entre-temps, la CPI entend dialoguer avec les pays tentés par le retrait. À noter que le Burundi et la Gambie n'ont cependant pas de notification officielle auprès du secrétariat de l'ONU, contrairement à l'Afrique du Sud qui a suivi la procédure. Signalons par ailleurs que sur les 10 affaires actuellement instruites par la Cour pénale internationale, 9 sont africaines.
Merci Berry Franklin Luchaka, Patrick Tchiboui. Je rappelle que vous êtes assistant chargé de la sensibilisation au bureau extérieur de la CPI à Kinshasa. Et comment vous comprenez cette volonté exprimée par certains pays africains de vouloir quitter la CPI?
Merci beaucoup pour cette invitation. J'aimerais saluer les deux professeurs qui sont avec nous dans cette émission. Je crois qu'il est important d'abord de relever ce sentiment de regret qu'a manifesté le président de l'Assemblée des États partis, le ministre actuel sénégalais de la Justice, M. Sidiki Kaba, qui a effectivement regretté ces décisions prises par ces États. Mais il est aussi important de souligner, comme il a clairement répété encore hier lors de sa conférence de presse à Dakar, qu'une décision de retrait est un acte de souveraineté. Le système qui était mis en place par le statut de Rome de la Cour pénale internationale est un système qui est basé sur le volontariat. Ça veut dire que les États adhèrent au statut de Rome de manière volontaire, manifestant leur volonté de pouvoir ratifier un traité international. De la même manière également, les États peuvent décider de se retirer. Et le retrait est prévu par l'article 127 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc d'une part, il y a ce regret qui est manifesté, mais d'autre part, il y a aussi le fait qu'en tant qu'État souverain, État ayant ratifié librement le statut de Rome de la Cour pénale internationale, un État peut également se retirer du statut de Rome, la Cour pénale internationale. Mais évidemment, les raisons qui sont évoquées, je crois que dans le cadre de cette émission, on aura en parler, ce sont des raisons qui sont évoquées de part et d'autre par rapport à l'action de la Cour pénale internationale dans les pays africains, sont des raisons qui peuvent être expliquées et on aura l'occasion de pouvoir l'expliquer. Mais il y a aussi, je voudrais aussi rapidement profiter de l'occasion pour rappeler que dans le mécanisme, dans la procédure prévue par l'article 127 du statut de Rome, un État qui veut se retirer doit notifier son retrait au secrétaire général des Nations Unies et le retrait ne prend effet qu'un an après. Et c'est comme ça que justement le président de l'Assemblée des États partis, M. Sidiki Kaba, espère et souhaite que pendant cet intervalle d'un an, les États pourraient revenir à leur décision. C'est un espoir qu'il affirme et surtout il rappelle qu'il y a un cadre qui est établi par le statut de Rome pour discuter des différents problèmes qui peuvent se poser, des appréhensions, des critiques. Le cadre, c'est l'Assemblée des États partis. Et en novembre, on aura la session annuelle du 16 novembre au 24 novembre de cette année, il y aura la session annuelle et donc il invite les États partis au statut de Rome à pouvoir utiliser ce cadre pour pouvoir faire entendre leur voix, faire des propositions et mettre les critiques Patrick. Sur des propositions pour un dialogue constructif.
Oui, vous dites regretter, n'est-ce pas, cette volonté de certains pays africains de vouloir quitter la CPI, tout en soulignant, n'est-ce pas, qu'une décision de retrait est un acte de souveraineté. Vous ne pensez pas que c'est la CPI qui a précipité certains pays à pouvoir prendre une telle décision? C'est comme l'Afrique du Sud. Hein. On se rappelle que ce pays avait été accusé par la CPI des manquements à ses obligations de coopération judiciaire lorsqu'il avait refusé de procéder à l'arrestation du président El-Béchi du Soudan, accusation que ce pays avait mal digérée.
Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu état de ces manquements de coopération lors de la visite du président Omar El-Béchi faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Il faut aussi rappeler que ce constat de défaut de coopération n'a pas porté que sur l'Afrique du Sud. Plusieurs pays africains, c'est vrai, dans le pays où M. Omar El-Béchi s'était rendu, il y a eu aussi constatation d'un défaut de coopération de la part de la Chambre criminelle de cette affaire. Mais lorsqu'on parle de défaut de coopération, il faut vous rappeler que le système voulu par les États est un système qui oblige les États partis à coopérer avec la Cour pénale internationale. Donc, lorsqu'un État parti ne coopère pas avec la Cour pénale internationale, le statut prévoit qu'une seule possibilité, les juges font état de ce défaut de coopération, soit à l'Assemblée des États partis, soit au Conseil de sécurité. Et dans le cas d'espèce où il y a eu constatation d'un défaut de coopération d'un État africain parce qu'une personne poursuivie sous mandat d'arrêt s'est rendue dans leur État, c'est des procédures qui sont prévues par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Je ne pense pas que c'est la Cour qui est provoquée. Il faut rappeler, on a insisté sur le fait que la Cour a été instituée sur base de ce qu'on appelle le principe de complémentarité, qui veut simplement dire que la responsabilité première pour poursuivre les auteurs de crimes graves revient aux États. Vraiment, pour paraphraser, si vous ne voulez pas voir l'action de la Cour pénale internationale pour des crimes commis sur votre territoire grave ou commis par vos ressortissants, la simple chose à faire, c'est de les poursuivre vous-même parce que le statut de Rome vous donne cette responsabilité. La Cour n'est donc qu'une juridiction subsidiaire.
Oui, lorsque ce pays vous rapproche de pratiquer une justice à deux vitesses, n'ont-ils pas raison dans ce sens que jusque-là, il n'y a que les Africains qui sont poursuivis par la CPI sur 10 enquêtes en cours, 9 concernent les pays africains?
Oui, ça c'est un constat et qui est vrai. On ne nie pas ce constat. Mais ce qui est important, c'est de se demander comment on en est arrivé là. Et lorsqu'on se pose la question de savoir comment on en est arrivé là, la réponse, elle est simple. Dans la grande majorité des situations, ce sont les États africains eux-mêmes qui ont demandé à la Cour de pouvoir ouvrir des enquêtes. Et ces États l'ont fait parce que motivé par le souci de ne pas voir des crimes graves rester impunis, motivé par le fait que le statut leur donne la possibilité de saisir la Cour pénale internationale pour des crimes graves. Tout cela dans le cadre de la lutte effective contre l'impunité. Donc lorsque vous avez des États africains qui, en vertu du statut de Rome, saisissent la Cour pénale internationale pour ouvrir des enquêtes, que le procureur estime qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir des enquêtes, et que des enquêtes sont ouvertes, et de ces enquêtes, il y a des procédures qui ont été enclenchées, il est alors très difficile de pouvoir parler d'une cour discriminatoire de la part de l'action de la CPI.
Merci, professeur Jacques Joly, professeur des droits. Vous êtes sénateur de l'opposition et inspecteur général du MLC. Et trois pays africains sont sur le point de rompre avec la CPI. Comment vous analysez cela?
Merci beaucoup, mais je crois que c'est inévitable, cette action des États menée de manière unilatérale a été affirmée par l'ensemble des pays membres de l'Union africaine lors du sommet africain, du sommet de l'Union africaine de 2013, donc de juillet 2013, où les 34 États africains avaient pris l'option de quitter cette cour. Pourquoi? Ben, la cour, c'est la plus grande déception, n'est-ce pas, de l'histoire de la justice pénale internationale. Nous avons eu de juridictions contextuelles telles que Nuremberg ou Tokyo et ailleurs, et finalement, l'humanité, après la bipolarisation du monde, a cru qu'il fallait mettre en place une justice pénale internationale. Et cette idéalité a été, n'est-ce pas, mouillée, et cette idéalité a échoué à cause de l'approche, n'est-ce pas, de la CPI. D'abord, comme vous l'avez dit, sur le plan des États qui ont signé ou qui ont ratifié ces traités de Rome de 98 et qui est entré en vigueur en 2002, on remarque que ce qu'on appelle les grandes puissances n'ont pas ou signé ou ratifié. Les États-Unis n'ont jamais ratifié. La Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie et l'Arabie Saoudite, l'Israël et même la France a fait une pirouette juridique qui fait que finalement sa ratification n'est pas évidente parce que elle ne coopère que lorsque ses intérêts sont là. Donc finalement, les grandes puissances n'y sont pas parties.
François Jacques Joly, mais ces puissances ne sont pas obligées de ratifier ces statuts, comme les États africains non plus n'étaient pas obligés de ratifier.
Tout à fait, mais sauf que ces grandes puissances sont derrière toutes les actions contre les États africains et d'autres pays. Les États africains, effectivement, par naïveté ou par foi, n'est-ce pas, au droit international, c'est le plus grand groupe, les 34 États africains. Les autres viennent après. Alors, ils sont arrivés là-bas. Curieusement, c'est devenu une cour politique africaine où, finalement, comme vous l'avez dit, sur les 10 affaires, 9 sont africaines. Et ensuite, lorsque on voit l'action de cette cour, c'est une cour qu'il faut désafricaniser. On dirait que, finalement, dans le monde, il n'y a que les Africains. Oui, il y a le problème de complémentarité. Lorsque notre ami Thibouy parle des actions initiées soit par les États. En fait, la cour a été manipulée par les États africains et la cour manquable particulièrement du professionnalisme, est tombé dans ces jeux politiques.
En fait, n'est-ce pas un paradoxe, les mêmes États qui manipulent la Cour, en fait, qui prennent l'initiative d'inviter la Cour à pouvoir mener les enquêtes chez eux, les mêmes États s'opposent au travail de cette Cour.
Mais nous avons dit à la Cour dès le départ, qu'attention, lorsque la Centrafrique vient avec le dossier Bemba, la Centrafrique est instrumentalisée pour des questions internes au droit, au problème congolais. Lorsque Ouganda vient, c'est parce que l'Ouganda veut régler un problème interne. Lorsque la Côte d'Ivoire vient qu'on poursuive Gbagbo et Blé Goudé, c'est que Ouattara veut se débarrasser des adversaires politiques. Nous leur avons dit ça. Donc d'abord, cette mauvaise perception et surtout, le travail de la Cour elle-même a démontré ses limites, à commencer par le théâtral Moreno, et ensuite Madame Ben Saouda, qui était ministre de la Justice d'un pays qui veut justement quitter la Gambie, qui est un pays où on ne peut pas parler d'état de droit. Et ensuite, même dans le travail quotidien, dans la procédure de la Cour, nous avons pu le démontrer, l'absence de professionnalisme, les favoritismes, ou le non-respect de droit de la défense. Vous pouvez vous imaginer qu'un procès comme celui de Bemba, ça pourrait bientôt faire 10 ans, et bien sûr qu'il y a les affaires, les procédures et les autres, mais dans le traitement du dossier, il y a même des non-juristes, des dames non-juristes qui étaient juges à la cour. Donc, il y a bien sûr, comme je l'ai dit, il y a une dimension géopolitique qui a été négligée, une dimension d'instrumentalisation de la CPI par les grandes puissances qui n'ont jamais ratifié et qui utilisent la Cour pour régler les cas du Soudan et autres, ou de Kadhafi. Et finalement, la Cour elle-même qui a péché par incompétence ou absence de professionnalisme.
Donc, au-delà de tout ce que vous reprochez à la CPI par rapport à son travail, notamment toutes les procédures qui sont utilisées, cette décision des États africains, est-ce une évolution ou un recul dans la lutte contre l'impunité en Afrique?
Sur le plan de principe, on peut parler d'un recul. Parce que les États africains, comme beaucoup des hommes de bonne foi, ont cru à une évolution, à un progrès avec cette justice pénale internationale. Mais c'est dans la pratique que cette idéalité a été remise en cause, comme je vous ai dit, parce que ceux qui devaient jouer le leadership moral, tels que les États-Unis et les autres, ne l'ont pas ratifié, et c'est devenu une affaire de rapport de force, et que ces puissances internationales, avec leurs alliés locaux, utilisent la CPI pour régler les comptes, n'est-ce pas, aux dirigeants qui ne sont pas leurs alliés ou à des adversaires politiques. Et finalement, aujourd'hui, ces mêmes dirigeants se rendent compte que les choses ne marchent pas. Et finalement, je crois que la CPI n'a pas d'avenir. Parce que comment peut-on m'expliquer que sur les 10 affaires, il n'y a que des affaires africaines? Et alors que des crimes se commettent en Afghanistan, on dit qu'on va ouvrir une affaire, une information là-dessus, ou en Colombie, ou dans des autres. Donc finalement, nous croyons que la Cour a péché dans sa vision stratégique, et ensuite, surtout sur le plan de la procédure. Merci. Si on prend le cas de Jean-Pierre Bemba, peut-on imaginer, dans le respect des droits de la défense, que l'accusation mette en écoute la défense, et que les arguments tirés de cette écoute anarchique, illégale et sauvage puissent servir de preuve contre l'autre? Ça, c'est un droit pénal assez particulier de la Cour.
Merci, professeur Boniface Moussambi Kabissa, criminologue. Comment vous expliquez cette dynamique, vous, en tant que criminologue?
Merci beaucoup. Je vois mon collègue ici qui est...
Professeur Jacques Joly.
Professeur Jacques Njoli, qui est mon ami, qui explique bien des choses avec beaucoup de passion. Moi, je pense que nous devons aller au commencement. En 1995, je fais mon mémoire de licence intitulé « La délinquance d'État ». Grille de lecture à propos du Zaïre. À l'époque, mes professeurs ont refusé ce titre. Ils ont pensé que l'État ne pouvait pas délinquer. Dans ce mémoire, j'ai regretté que la Cour pénale internationale de Nuremberg ait été limitée dans les temps et dans l'espace. J'avais imploré, dans ce travail qui est encore à l'Université libre de Bruxelles, j'avais imploré qu'il y ait une juridiction internationale pour essayer de régler le problème de la délinquance d'État. Vous savez que l'homme n'aime pas les lois. Tout simplement parce que l'homme n'est pas né pour observer les lois. L'homme, c'est... J'entre là en criminologie, je suis désolé. L'homme, c'est un arbitraire. Donc toutes ces lois, tant nationales qu'internationales, sont faites pour moduler notre vie en commun. Et personne n'en veut parce que ce sont des contraintes. Alors la Cour pénale internationale, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Nous ne pouvons pas aujourd'hui jeter les bébés et l'eau du bain. La Cour pénale internationale est venue pour régler le problème. Et comme mon collègue l'a dit, il y a un problème très sérieux, malheureusement, dans les faits, dans la procédure. Il m'est arrivé de, sans que j'ai une personne qui m'est proche, poursuivie par la Cour pénale internationale, d'abord, premièrement, les Africains ont été arrêtés, amenés menottes au point depuis que nous sommes en contact avec les Occidentaux. Il n'y a que ce mouvement qui part de l'Afrique vers l'Occident avec les gens menottes au point. Moi, je considère cela comme insultant. Deuxièmement, dans la procédure, la Cour pénale devait être le modèle même des juridictions. C'est là où je la condamne. Je la condamne
pas. Et vous pensez qu'elle n'est pas un modèle?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé, je suis scientifique, je ne peux pas accepter que quelqu'un reste en détention préventive pendant plus de 3 ans. Et lorsque un État le fait, vous entendez combien on critique ces États-là. Et lorsqu'il s'agit d'une juridiction internationale, qui devait être une juridiction enseignante de nous autres qui pratiquons le droit. Deuxièmement, lorsque je ne parle pas, je n'accepte pas cette histoire de dire qu'il n'y a que des Africains. Parce qu'il y a eu Milosevic qui était là, qui est venu de l'ex-Yougoslavie, qui est passé, il y a des procédures ailleurs.
Le grand problème, notamment en Géorgie.
Voilà. Le grand problème, c'est quoi? C'est que chez nous, en Afrique, nous manipulons nos propres institutions judiciaires. Et donc, vous savez, c'est Singa Oudou, qui était ancien ministre de la Justice, qui m'a dit quelque chose dans la voiture. Lui, il a oublié, moi pas. La justice, c'est ses parents qui vous restent lorsque tout le monde vous aura fui. Et donc, lorsque aujourd'hui, vous êtes dans une situation de confort, vous manipulez la justice parce qu'elle est à votre portée, sachez que vous ne laisserez pas toujours. Sachez que le moment d'inconfort arrive, vous allez vous plaindre vous-même puisque la personne qui sera en possession de cette justice va faire la même chose que vous. Alors, je pense...
Et donc, vous justifiez le travail de la CPI.
Mais bien sûr, moi, je n'ai jamais, au contraire, je suis le grand soutien de la Cour pénale internationale, mais je suis vraiment au regret de voir qu'ils y ont ajouté, et mon collègue a raison, de la politique et de l'émotion individuelle, alors que ça devait être le modèle et ces jurisprudences devaient être enseignées dans les écoles. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que la Cour pénale internationale devait être différente, devait opérer différemment. Moi, je ne sais pas. Nous avons deux systèmes de la procédure pénale. Il y a le système accusatoire, il y a le système inquisitorial. Je n'ai jamais su lequel ils ont adopté. Parce que tantôt ils sont inquisitoriaux, tantôt ils sont accusatoires. Je n'ai pas encore vu quelle est la philosophie de la procédure pénale au niveau de la Cour pénale internationale. Et ça, je pense que la Cour pénale, et je termine par là, ne devrait pas être comme un bouquet caché quelque part. Elle devait être la plus transparente possible pour qu'à la fois sa procédure et ses jugements et ses arrêts soient le modèle à enseigner non seulement dans nos écoles, merci, mais auprès des magistrats.
Merci. Patrick Tchibouyi, il y a une réflexion qui vient de Bukavu à laquelle vous allez réagir.
Robert Mohamed de Bukavu au sud de Kivu. La décision de ces 3 pays africains de se solidariser de la CPI n'est pas mauvaise. Je pense que c'est vraiment une décision courageuse des pays qui veulent non seulement lutter contre la politique de 2 poids 2 mesures qu'applique la CPI, mais qui veulent aussi affirmer et démontrer à la face du monde l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Autant dire qu'il s'agit de la décision des pays africains qui cherchent à tout prix à lutter contre les injustices politiques et surtout à libérer réellement l'Afrique du joug néocolonialiste de l'Occident.
Monsieur Patrick Tchibouyi.
Oui, merci beaucoup. Je voudrais très rapidement, en quelques mots, un peu reprendre avant de répondre à la question, un peu quelques éléments qui sont assez importants. Je crois que il faut que nous rappelions quels sont les grands enjeux que nous avons en face. L'enjeu fondamental de la justice pénale internationale, l'enjeu fondamental de la Cour pénale internationale, c'est la lutte contre l'impunité. Et de quels crimes s'agit-il ? Il s'agit des crimes graves. Et comme je l'ai dit, le système qui a été mis en place par le statut de Rome de la Cour pénale internationale est un système qui est basé sur le principe fondamental de la complémentarité. Ça voudrait simplement dire que, puisque nous sommes tous d'accord que les crimes graves ne doivent pas rester impunis, c'est comme ça que le préambule d'ailleurs du statut de Rome commence en rappelant les atrocités qu'a connues l'humanité. Les millions d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été victimes d'atrocités, qui ont défié l'imagination, ce sont là des propos qui viennent déjà dans le préambule du statut de Rome pour justement montrer le grand enjeu de la création de la Cour pénale internationale. Mais toujours dans ce préambule rappelle qu'il est du devoir des États de pouvoir poursuivre les auteurs de crimes graves. Et ce qui est intéressant dans ce préambule, c'est qu'on parle d'un rappel. Ça voudrait dire que le devoir, la responsabilité de poursuivre les auteurs de crimes graves a toujours préexisté avant la création de la Cour pénale internationale. C'est pourquoi dans le préambule, on parle d'un rappel. Ce n'est pas un nouveau devoir qu'on impose, mais c'est un rappel d'un devoir qui a toujours préexisté. Mais maintenant, la différence avec la création de la CPI, c'est que ce devoir est renforcé. Et renforcé comment ? Renforcé parce que maintenant, on a une institution permanente qui a comme conséquence que vous, État, vous exercez votre devoir premier de poursuivre les auteurs de crimes graves, mais maintenant, avec l'existence d'une juridiction permanente, si vous ne le faites pas, la Cour pénale internationale peut le faire. Et il est important de relever que depuis l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire du mandat d'arrêt. D'ailleurs, une affaire du mandat d'arrêt qui était initiée par la RDC, rappelez-vous à l'époque, lorsque il y a eu un mandat d'arrêt délivré contre le ministre des Affaires étrangères congolais de l'époque, la RDC s'est adressée à la Cour internationale de justice pour dire qu'on avait violé le droit international. Et la Cour internationale de justice a rendu un arrêt fondamental qui dit que les personnes qui bénéficient d'immunité, notamment les chefs d'État, dans le cas d'espèces et ministres des Affaires étrangères, ne peuvent pas être poursuivis par des juridictions nationales étrangères. C'est comme ça que la CJ avait demandé qu'on casse, qu'on casse le mandat d'arrêt qui avait été délivré contre le ministre des Affaires étrangères. Mais la CJ dit dans cet arrêt que devant les juridictions pénales internationales, et la CJ cite expressement le statut des tribunaux pénaux internationaux dans le TPR et le TP grec, et la CJ cite clairement l'article 27 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc, maintenant, avec l'existence d'une juridiction permanente, si une des personnes, même qui bénéficient des immunités, maintenant qui ne peuvent pas être poursuivies par une juridiction nationale étrangère, même sous base de la compétence universelle, comme cela a été fait à l'époque contre le ministre des Affaires étrangères congolais, maintenant, ces personnes peuvent être poursuivies par la Cour pénale internationale. En d'autres termes, les États doivent poursuivre qui que ce soit pour des crimes graves. Merci. Avant la création de la Cour, s'il s'agit des personnes qui ont des immunités, si l'État de la nationalité de cet auteur ne le poursuit pas, même un État étranger, même s'il s'agit des crimes graves, depuis l'arrêt de la CJ, ces personnes ne peuvent pas être poursuivies par un État étranger sous base de la souveraineté. Mais avec la création de la Cour pénale internationale, vous, État, vous poursuivez toute personne, quel que soit son statut, pour des crimes graves, et maintenant l'existence de la CPI fait que si vous ne le faites pas, il existe maintenant une juridiction pénale internationale permanente pour pouvoir le faire. Donc c'est aussi simple que cela. Donc maintenant, c'est pour simplement montrer qu'à vrai dire, on ne devrait pas jeter autant de pierres sur la Cour pénale internationale parce que la Cour, elle est subsidiaire. Elle ne vient qu'en second lieu. Et l'élément également que j'aimerais ajouter, c'est que lorsque vous regardez la procédure devant la Cour pénale internationale, je voudrais vous rappeler que devant la Cour pénale internationale, vous avez eu des gens qui ont été, une personne qui a été acquittée, à l'issue d'un procès, qui a été acquittée, d'autres personnes qui, dont les charges ont été rejetées, notamment Kalis Mbarushimana pour la situation en RDC et Abu Garda pour la situation au Darfour. Donc ça voudrait dire que cette institution n'est pas seulement là condamner les personnes, parce que d'ailleurs le statut dit que toute personne poursuivie est présumée innocente.
Patrick Tibouyi, est-ce que vous me suivez?
Je vous suis.
Oui, vous venez de dire que l'enjeu fondamental du travail de la CPI est la lutte contre l'impunité. Vous avez suivi ici, on dit que vous procédez mal, donc que la CPI procède mal et qu'elle s'est contredit elle-même. Elle qui dit lutter contre l'impunité, elle est la première, n'est-ce pas, à entretenir cette impunité quand il s'agit des grandes puissances.
Non, pas du tout. Et justement, merci parce que vous permettez également de répondre à cette préoccupation. C'est vrai qu'il y a certaines grandes puissances qui ne sont pas état parties, mais j'aimerais rappeler que, par exemple, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité, vous avez deux états parties à part entière. La France, qui est un état parti à part entière totalement, et qui a beaucoup milité pendant les négociations pour l'adoption du statut de Rome, et qui est un état parti à part entière sans réserve, parce que d'ailleurs il ne prend pas prévu de faire de réserves, mais c'est un État parti, et vous avez également la Grande-Bretagne, qui sont deux États permanents au Conseil de sécurité, qui sont des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais d'autres grandes puissances, c'est vrai, ne sont pas parties, mais il n'y a pas que de grandes puissances. Nous avons aujourd'hui 124 États. Alors ça voudrait dire que tous les États du monde ne sont pas partis au statut de Rome.
Merci Patrick. Merci, professeur Jacques Joly. Il y a une réflexion à laquelle vous allez aussi réagir. Elle vient de Bounia.
Luc Malembe, depuis Bounia, province de l'Ituri. La décision du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie de se retirer de la Cour pénale internationale me paraît surprenante. Qui amène les Africains devant la CPI? Mais ce sont les Africains eux-mêmes, parce qu'on sait tous que la CPI n'a ni armée ni police. Ce sont les chefs d'État africains qui utilisent la même CPI pour se débarrasser des opposants qui leur sont hostiles. La meilleure décision, à mon avis, que les chefs d'État africains devaient prendre, c'est de s'engager de ne plus jamais amener leurs propres frères devant la CPI. On sait que le statut de Rome prévoit que la CPI peut même enquêter dans un État qui n'est pas membre de cette cour, si seulement le Conseil de sécurité de l'ONU le demande. Aussi, le fait de dire qu'ils vont se retirer simplement parce que la CPI n'arrête pas d'autres citoyens, d'autres États non africains, ce n'est pas une raison. Sauf s'ils nous disent ici que la CPI arrête les Africains injustement, ce qui n'est pas vrai.
Professeur Jacques Joly.
Mais non, je crois que nous sommes dans la même longueur d'onde que notre frère de Bounia. C'est que la CPI, effectivement, dans le meilleur du cas, si nous voyons l'ensemble des affaires africaines qui sont là, a été saisie dans les cas centrafricains par les centrafricains, dans les cas maliens par les maliens, par les cas ougandais par les ougandais. Les conseils de sécurité étaient intervenus dans les cas de la Libye et de Darfour sous pression américaine. Et puis, il y a des cas d'autosaisine, des cas de la Géorgie, qui est un cas exceptionnel sur les 10 cas. En fait, comme dit notre compatriote, la CPI s'est laissée manipuler, mais malheureusement ou de manière intentionnelle, par les chefs d'État africains qui, comme je l'ai dit au départ, veulent se débarrasser, comme dit le frère, de leurs opposants. Malheureusement, comme je dis, la CPI entretient cette dérive. C'était dérive. Et nous l'avons dit dès le départ, que voilà un projet de civilisation. Cette idéalité, comme a dit mon co-débatteur, où il y avait besoin d'une justice pénale internationale permanente, qui a été, n'est-ce pas, déroutée par la procédure, par de mauvais acteurs, et qui finalement aujourd'hui remet en cause une idée lumineuse. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, aussi bien dans l'écriture, n'est-ce pas, du statut ou dans la procédure, mais surtout dans la mise en œuvre. Il y a des gens qui ont fait 10 ans. Il y a des procédures où, par exemple, le cas de Bemba, qui était poursuivi comme co-auteur, alors que l'auteur principal, le président centrafricain, n'est pas traduit devant la cour. Il n'y a aucun centrafricain dans une affaire qui concerne les centrafricains, et Bemba se retrouve seul comme complice sans co-auteur. Comment peut-on m'expliquer cela? Et la cour, se rend compte de sa déroute, réqualifie le fait pour dire « Non, je te poursuis plus comme co-auteur, maintenant je te poursuis comme auteur pour n'avoir pas pris des dispositions qu'il aurait paru flandre. » Mais tout cela, c'est on tombe dans des inepties et dans des exactions.
Cela ne peut pas s'expliquer par les principes de la complémentarité. Kivu, il a dit, il y a ces principes de subsidiarité. Est-ce que ce n'est pas parce que ces États, comme prenons le cas de l'Afrique, de Centrafrique, qui estiment que pour les cas Bemba, la CPI peut s'en occuper.
Oui.
Pour d'autres cas, bon, il y a des juridictions nationales qui
peuvent le shopping law. Donc, quand ça t'arrange, tu es d'accord. Quand ça t'arrange pas, tu laisses tomber. C'est, on l'a vu dans le cas de la Côte d'Ivoire. Ils étaient pressés de transférer Gbagbo et Blé Goudé. Et lorsque la cour dit, bon, donnez-moi Simone Gbagbo, eh ben, la cour devient incompétente. Alors, je peux même vous dire, pour les cas du Congo, il y a une semaine, il y a une mission de la CPI qui est venue ici faire du théâtre, parce que elle menace tout le monde, alors qu'il y a un rapport des Nations Unies qui est sorti au même moment pour dire les faits qui se sont passés ici sont les faits dus à l'utilisation abusive et disproportionnée des armes par les forces de l'ordre. Mais la Cour est en train de raconter des histoires. Donc c'est ça le problème, l'absence de professionnalisme. Et moi, dès le départ, comme je vous ai dit, et je ne mâche pas mes mots, Monsieur Moreno, comme procureur, c'est un ancien procureur militaire qui a fait du théâtre. Et vous savez qu'il y a même de cas avérés de corruption au niveau de la CPI. Donc, tout cela, comme a dit...
Des cas avérés.
Oui, des cas avérés. Donc, tout cela, c'est-à-dire que lorsqu'on on dit à Bemba qu'il a subordonné les témoins, mais il a été démontré que le procureur a utilisé l'argent de la CPI pour orienter les témoins. C'est dans le dossier.
Mais en dépit de cela, il est reconnu coupable.
Il y a même d'harcèlement sexuel au niveau de la CPI. Donc, tout cela nous amène à dire que une idée lumineuse a été, n'est-ce pas, mise à mal par l'approche, par les grands États qui ont utilisé la Cour pour, n'est-ce pas, rêver les camps.
Donc, la Cour a déçu.
Par le cas de Garba. Voilà un rebelle du Sud-Soudan, c'est-à-dire qui vit dans le Darfour, qui vient comparaître libre à la CPI, il descend seul à l'aéroport de Chepol, et il va comparaître et il rentre. Mais lorsqu'on leur dit, mais M. Bemba a une adresse, mais toutes les demandes de liberté provisoire sont refusées. Donc, ce qui démontre que l'action de la Cour est orientée politiquement.
Merci.
Et c'est cette orientation politique qui a mis en moule le projet qui a toujours existé auprès des criminologues et des pénalistes d'avoir une justice pénale internationale crédible et exemplaire.
Pour s'établir ça, il y a aussi une réflexion qui vient de Kinshasa.
Enfin, Ikoka, j'appelle depuis Kinshasa. Il est vrai que la majorité des procédures déclenchées devant la CPI, pour l'instant, concernent tous l'Afrique et que les autres États partis sont en reste. Mais c'est là... Il faut aussi l'avouer, n'enlève en rien les caractères criminels des actes posés par certains dirigeants africains. Les faits sont réels et la CPI doit s'en occuper. Surtout que le continent n'a pour l'instant ni moyens ni la capacité de réprimer les crimes internationaux. Cependant, il est important à l'ère actuelle de révisiter certaines dispositions du statut de Rome en vue par exemple de revoir les pouvoirs exorbitants du Conseil de sécurité des Nations Unies qui font qu'il y ait politisation de la Cour en protégeant les grandes puissances et leurs intérêts étrangers.
Professeur Gabissa.
Bon, je vous remercie et je félicite cet auditeur. Moi, je pense très sincèrement que, comme venait de dire mon collègue, la Cour pénale internationale, c'est une idée géniale. Et que cette juridiction, ne serait-ce que par sa présence, a sauvé des vies humaines. Il y a eu ici en Afrique des hommes très puissants qui n'ont pas pu utiliser leur puissance rien que par la crainte. Il faut qu'il y ait un policier. Quand il n'y a pas un policier, les gens retournent dans leur pristine état, c'est-à-dire dans l'état sauvage. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que l'auditeur a raison. La Cour pénale ne peut pas faire la sourde oreille. Elle doit, à un moment donné, réfléchir sur son organisation et son fonctionnement. Parce qu'il est mauvais. Et ça, je suis partisan de la Cour pénale internationale. Je la soutiendrai contre vents et marées, mais je suis scientifique, je ne peux pas ne pas voir que la Cour pénale internationale est devenue de plus en plus un scandale judiciaire. Et ça, ce n'est pas le fait de l'existence de la Cour, mais c'est le fait de ses acteurs. Puisque ces acteurs qui ont des ramifications politiques, commencent à politiser la procédure au niveau de la Cour. Je vous ai parlé.
Vous remettez en cause les acteurs. Pourquoi vous ne voulez pas remettre en cause les textes sur lesquels se fonde cette Cour?
On a des très bons textes. Non. Je suis désolé, on a des très bons textes. Le problème ici, c'est la mise en œuvre de ces textes. Lorsque vous êtes à la Cour et que on accuse quelqu'un, comme on venait de le dire, qu'il est co-auteur, mais il doit y avoir un autre. Nous sommes des juristes. Lorsque vous dites « c'est un complice », ça veut dire qu'il y a un auteur. Mais vous ne pouvez pas, ad vitam, poursuivre que le complice, vous ne vous souciez pas de l'auteur. Mais...
Alors, à votre avis, la solution, c'est quoi? Il faut faire quoi? Il faut réformer, modifier, pas les textes, mais essayer de définir un critérium pour engager, recruter les acteurs qui doivent travailler dans cette juridiction.
Le premier souci, je suis désolé, ce sont nos États africains qui devraient mettre en place des vraies juridictions judiciaires. Parce que tout ceci nous arrive parce que nous montrons notre nullité devant les étrangers. Le représentant de la Cour pénale internationale l'a dit. La Cour pénale internationale ne travaille que par complémentarité. Vous savez, par exemple, dans certains pays africains, dont le nôtre, certaines infractions ne sont plus jamais poursuivies.
Mais alors, dès lors que les conditions ne sont pas réunies, parce que vous parlez des juridictions qui doivent, n'est-ce pas, traiter certaines questions ici en Afrique, mais si ces conditions ne sont pas réunies, vous avez parlé des États délinquants, qu'est-ce qu'on fait? Ça sera sur votre conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, mais quand les conditions ne sont pas réunies, on les met en place. Quelles sont ces conditions? Les hommes, on les a. Les écoles, on les a. Mais c'est la corruption. C'est la corruption qui tue l'Afrique. Et donc aujourd'hui, si on se retrouve ridicule dans les bancs des accusés, c'est parti de la corruption qui est devenue pratiquement une infraction tombée en désuétude. Ici, par exemple, dans notre pays, on ne parle plus de la corruption. Vous pouvez passer dans nos juridictions. Vous ne verrez jamais quelqu'un poursuivi pour ça. Or, les juridictions à l'extérieur, dans les pays que nous condamnons, sont presque les substituts des dieux. Voilà la différence entre ces États-là et nous.
Merci. Patrick Tchibouyi, ça sera sur votre conclusion. Comment vous entrevoyez l'avenir de la CPI face à cette dynamique?
Oui, alors, trois choses, ou peut-être quatre. Premièrement, j'aimerais rassurer les auditeurs que la Cour pénale internationale, notamment ses acteurs, sont dotés d'un professionnalisme avéré. Et donc, même hier, lors de sa conférence de presse, le président de l'Assemblée des États partis, M. Sidi Dikaba, l'a rappelé de manière très claire que le choix même pour la désignation même des juges se fait sur un critérium extrêmement serré. Donc les juges qui sont désignés, et même le procureur qui est désigné, c'est le résultat des discussions, des choix d'un niveau extrêmement élevé. Donc sur le plan du professionnalisme, en tant qu'acteur, la Cour, les États se rassurent à avoir les meilleurs. Sur la mise en œuvre des textes également, il faut, pour notamment ceux qui travaillent dans la recherche, j'aimerais les inviter à lire les jugements de la Cour, les décisions de la Cour, parce que les décisions que rendent les juges sont motivées. Et cette motivation permet de savoir sous quelles règles de droit les juges rendent telle ou telle autre décision.
Merci. Merci, professeur Jacques Joly. Votre conclusion?
Mais nous espérons que l'humanité aura la chance de mettre en place une justice pénale internationale vraiment professionnelle, non pas théâtrale, avec des procureurs tels que ceux que nous avons eu comme Renault ou Madame Ben Saouda qui vient d'un pays d'équipe dictatoriale.
Merci.
Je ne vois pas quel type de justice une femme venue de la Gambie peut mettre en place dans le monde où l'état de droit constitutionnel devient à l'aide.
Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci et bonne suite de programme sur Radio Capitole.